En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Bien donc, Jean Bachelard m'a fait l'honneur de me déléguer la présidence de cet après-midi. Je vous préviens, ça va être militaire maintenant. C'est fini de rigoler. Donc...
On démarre
avec une communication sur les traumatismes psychiques par le médecin général.
Parce que les traumatismes psychiques peuvent survenir aussi d'un tremblement de terre ou d'un viol. Aujourd'hui, on parle de traumatismes psychiques de guerre.
Donc, une communication sur les traumatismes psychiques de guerre.
On y va.
Je vous en prie.
Allez. Au lendemain des armistices de 1918 et 45, la France entière a honoré ses morts et ses blessés physiques. Mais aucune considération n'a été accordée aux blessés psychiques qui ont été bouleversés par la violence lors des combats, profondément et pour certains durablement. La population, toute à la joie de la paix trouvée, s'est retournée vers ses occupations pacifiques d'auparavant, impliquant à ces soldats malheureux et honteux ce deuxième traumatisme qui est l'indifférence, voire l'oubli de leurs concitoyens. Pourtant, c'était connu depuis longtemps. Je passe rapidement sur une brève comptabilité. Aucune comptabilité n'a été effectuée pour ces blessés psychiques. Pendant la Première Guerre mondiale, les Américains, qui sont des gens précis, ont quand même recensé 70 000 sujets environ traités pour troubles mentaux, pour un effectif de 2 500 000 hommes entre avril 17 et novembre 18, ce qui représente un taux non négligeable de 28 pour 1000. Ensuite, pour la Deuxième Guerre mondiale, Albert Glass a recensé 357 000 cas de blessés psychiques, soit moitié moins que le nombre des blessés physiques sur le théâtre d'opération. Ensuite, pour la guerre d'Algérie, mon camarade Lefebvre, qui avait travaillé sur une statistique des hospitalisés psychiques à l'hôpital de Constantine, et en extrapolant sur les deux autres régions militaires, arrive à la notion de 9000 hommes de perdus entre 54 et 62. Soit on peut vraiment parler de division perdue. Et enfin, concernant la guerre du Vietnam, une estimation de Gabriel en 87 estime que sur 3 millions d'hommes qui ont été envoyés au Vietnam entre 64 et 73, il y a 700 000 qui ont été sévèrement atteints, plus ou moins, 700 000 touchés, dont la moitié de 700 000, sur 12,5% ou 25, présenteraient des stress post-traumatiques. Je vais faire mon exposé en trois parties. Premièrement, une rapide rétrospective historique sur les troubles psychiques de guerre. Deuxièmement, examiner le phénomène de traumatisme psychique ou trauma. Et troisièmement, voir quel est le devenir de ces blessés psychiques. Concernant les rétrospectives historiques, je distingue quatre périodes. Celle des précurseurs, de l'Antiquité jusqu'à la guerre de sécession américaine. Ensuite, celle des fondateurs autour de Charcot. Celle des successeurs avec les deux guerres mondiales et les guerres postcoloniales. Et celle des novateurs qui ont amené la création de l'état stress post-traumatique. Rapidement, dans les précurseurs, on cite toujours le cas d'Épicélos, fils de Cuphagoras, qui est la bataille de Marathon, où il s'était combattu avec courage, à vu venir à lui un guerrier perse pesamment armé dont la barbe ombrageait tout le bouclier, qui passait près de lui sans le voir et qui a oxy son camarade à côté de lui. Et à cet instant, Épicélos est devenu aveugle, il est resté pour le restant de sa vie. C'est intéressant parce que c'est une cécité post-émotionnelle, conversion, c'est la conversion hystérique, et ce n'est pas n'importe quelle fonction qui est frappée, c'est la vue. La vue a véhiculé la frayeur, et en ne voyant plus, il se met artificiellement à l'abri de tout ce qui peut lui faire peur. Deuxièmement, s'il procure le bénéfice secondaire du statut de l'aveugle d'une cité antique. Hippocrate et Lucrèce ont parlé de cauchemars de bataille dans l'Antiquité chez les guerriers, je passe rapidement dessus. Je passe aux guerres de religion, où après le massacre de Saint-Barthélemy, le jeune roi Charles IX revoit en hallucination, dans la journée et la nuit en cauchemar, les visages ensanglantés de ses amis huguenots qui ont été assassinés dans une tuerie perpétrée en son nom. Il s'est fait dresser les cheveux, il s'en plaint à bras et il monte ses cheveux qui sont dressés. Et Agrippa d'Aubigné, qui avait échappé à Saint-Barthélemy parce qu'il s'était battu en duel, il était pourchassé par la maréchaussée, était blessé au combat de Casteljaloux de 7 coups d'épée en 1577, et quand il était dans le coma, il a cru qu'un ange lui donnait mission de témoigner des horreurs qu'il avait vues. De là, les 9700 vers de son poème Les Tragiques, dont, entre autres, il dira « Mes cheveux étonnés hérissent dans ma tête », ce qui n'est pas sans réévoquer le Horresco référence de Virgile. Dans les précurseurs, Larrey a décrit le vent du boulet. C'est-à-dire des sujets, le boulet passait tout près de leur visage, leur noircissait le visage et tuait leurs camarades à côté. Et un exemple le plus connu devant des boulets, c'est dans les mémoires du baron Marbot, à la bataille d'Eylau en 1807, alors qu'il se penche pour sauver l'aigle du 14e de ligne qui est encerclé par les Russes. Et il va revenir sous les balles russes, rapporter l'aigle à l'empereur. Un boulet a arraché sa coiffe, son chapeau. Et il dit « Je fus comme anéanti, je ne tenais pas le cheval, j'entendais, je voyais, je comprenais, bien que mes mains fussent paralysées, au point qu'il était impossible de bouger un seul de mes doigts. » Goethe était présent à Valmy, et là c'est moins connu, mais c'est intéressant, en quelque sorte comme correspondant de guerre de l'armée de Brunswick. Et alors, il vit une période, une expérience de dissociation, parce que le bruit du boulet qui arrive, Valmy n'a pas été un vrai combat avec charge de fantassins et charge de cavalerie, c'était un échange de tirs d'artillerie. Mais les artilleurs étaient occupés, ils n'avaient pas peur, les fantassins avaient peur sur trois lignes, à tel point que quand un boulet est venu tomber sur un caisson d'artillerie près de Kellermann, a tué son cheval et l'a renversé, les fantassins ont commencé à se débander, et Kellermann est remonté sur son cheval pour les encourager, montrer qu'il était là. Mais Goethe, lui, qui était là-bas, recevait effectivement les boulets qui arrivaient, comme ça, qui tuaient des gens autour de lui. Et il dit, le bruit de ce boulet qui arrive, c'est joyeux. C'est comme le frottement d'une toupie d'un enfant en train de jouer, c'est comme le bouillonnement de l'eau au printemps, et c'est comme la voix flûtée de l'oiseau. Et voilà que ce qui devrait évoquer quelque chose de joyeux apporte la mort, de cette première dissociation. Et à ce moment-là, il mentionne le sentiment de dépersonnalisation qu'il ressent. Il dit « Je suis dans un environnement chaud, imprégné de cette chaleur, jusqu'à être fusionné avec l'environnement qui vous entoure. » Je crois que c'est le premier exemple de l'expérience traumatique, de dépersonnalisation traumatique. Pinel a rapporté de nombreux cas cliniques dans sa monographie philosophique dans l'inertie mentale. Il y range émotions morales, idiotisme, manie, mélancolie, surtout névrose de la circulation, pour ceux qui avaient des pouls rapides. Alors, il parle de cas de deux jeunes réquisitionnaires, des soldats du contingent, en quelque sorte, qui partent pour l'armée. L'un est tué à côté de son frère, et l'autre, à ce moment-là, devient statufié, immobile, pétrifié. On le ramène à la maison et à Bicêtre. Et son arrivée fait le même effet sur le troisième fils de la famille qui est adolescent. Et j'ai une telle consternation que rien ne réalisait mieux cette immobilité glacée d'effroi qu'on peint tant de poètes. Il pensait à la Méduse, certainement. Les guerres du 19e siècle ont été intéressantes en ce sens que Henri Dunant, lui, a assisté en spectateur à la bataille de Solferino. Il cherchait a contacté Napoléon III pour obtenir des subsides pour monter une affaire de minoterie à Djemila, et il était surpris par la bataille et surpris de voir aussi que les blessés étaient abandonnés sur les champs de bataille et personne ne s'occupait d'eux, sauf les paysans du coin, qui les ramassaient et transportaient dans les églises transformées en infirmerie. Lui-même a acheté une charrette, un cheval, a loué un chauffeur, a acheté de la charpie et des chemises et s'occupait d'eux. Et trois ans après, il a écrit son souvenir sur Ferino, donc en 62, les malheureux blessés qu'on lève pendant toute la journée sont pâles, livides, anéantis. Les uns mutilés en regard hébété ne paraissent pas comprendre ce qu'on leur dit. Les autres sont inquiets et agités d'un tremblement convulsif. Et ça, il va monter à partir de ça la SSBM, ou Société de secours aux blessés militaires, qui va devenir ensuite la Croix-Rouge. La guerre de sécession américaine, vers Mitchell, recense 3050 nostalgies, on en a parlé hier. Et en fait, beaucoup sont des hystériques. Entre autres, ce cas qui est intéressant, d'un soldat qui a reçu une balle dans la cuisse qui lui a coupé le nerf sciatique. C'est normal qu'il ait le membre inférieur droit paralysé. Mais par une espèce de sympathie, il a également une paralysie du bras droit. Et sous hypnose, Vermichel ne guérit pas, bien sûr, celle de la jambe, mais fait disparaître celle du bras droit. On arrive à la période des fondateurs, avec Oppenheim et névrose traumatique. On doit le terme de névrose traumatique au psychiatre allemand Oppenheim au sujet des accidents de chemin de fer. Et c'est la première fois qu'il décrit une névrose due à l'effroi, Schreck, avec un ébranlement psychique, Silich Erschütterung, tellement intense qu'il produit une chose de durable. Alors, il décrit le souvenir de l'accident, les cauchemars de la puissance, la phobie du chemin de fer, qu'il appelle sidérodromophobie, et son œuvre est connue de Charcot, qui, dans ses sons du mardi, effectivement, opte lui aussi pour l'hypothèse psychogénique. Mais Charcot ne veut pas reconnaître l'existence de névrose traumatique, il sait de l'hystérie ou de la neurasthénie ou de l'hystéro-neurasthénie. Et parmi les cas présentés par Charcot, il y en a un qui m'intéresse beaucoup, c'est cet homme qui a une trentaine d'années à l'époque, et qui, alors qu'il était âgé de 5 ans au siège de Paris, a été victime de soufflé par une explosion d'obus qui a tué sa mère à côté de lui. Et cet homme, depuis, bégait. Mais il est chanteur de riz. Et quand il chante, il ne bégait pas. Et Charcot commente, il est bègue d'articulation parlée, mais non de l'articulation chantée. Un autre cas est intéressant, c'est un accident de chemin de fer où le sujet a forcément des souvenirs, des rêves, des cauchemars de chemin de fer, mais en même temps, il a des cauchemars, des combats de palestro, où il a participé 20 ans auparavant. Il y a deux névroses traumatiques qui se télescopent. Alors voilà ici la fameuse gravure de Lurat d'après le tableau de Brouillet, où on a reconnu tous les participants. Charcot est au milieu avec Blanche Whitman qui est dans ses bras, dans les bras de Babinski. Tous ceux-là sont là autour de lui. Il y a ses élèves qui sont fidèles. Il y a ceux qui vont le trahir, y compris son propre fils qui va amender la médecine après sa mort pour faire de l'exploration polaire, qui est debout à gauche sur la fenêtre. Freud, paraît-il, serait à droite. Et parmi ceux, Charcot invitait à ses leçons des membres du monde littéraire et artistique. Maupassant, Zola aurait suivi ses leçons. Et entre autres, Jules Clarty, qui était secrétaire perpétuel de Comédie française, et qui avait le visage dissymétrique, et dont Alphonse Allais disait avec regret, il n'a l'air d'avoir été giflé que d'un seul côté. Et alors c'est à ce moment-là que parmi les fondateurs, Pierre Janet, qui n'est pas encore médecin, qui est seulement agrégé de philosophie au Havre, mais qui est admis à suivre les cours de Charcot, prépare sa thèse de lettres sur l'automatisme psychologique. Il y a une vingtaine de cas qu'il présente, surtout des femmes battues, des enfants battus, mais également des victimes d'accidents de chemin de fer, etc. Et il dit que il lance la théorie de la dissociation de la conscience. Il dit que la part de la conscience qui est liée à la souvenance brute de l'événement, souvenance sensorielle, les sensations, les images, les bruits, etc., fait bande à part d'un recoin subconscient, oublie la conscience vigile, s'y comporte comme un corps étranger, non assimilé, inspirant des réticences automatiques, tandis que le reste de la conscience continue à inspirer des pensées élaborées. L'inconvénient, c'est que Janet appelle ça idée fixe, alors que ça n'a rien de cognitif. Et il dit que le sujet sera guéri, qu'il pourra reprendre ça par le langage. Freud vient en 89, peu de temps après la thèse de Janet, et découvre que Janet a les mêmes idées que lui, et se dépêche d'écrire à Breuer, disant « Mais Janet le coupe l'air sous le pied ». Il reprend, honnêtement, il dit « Je reprends à Janet la notion de dissociation du conscient, mais son terme d'idée fixe est mauvais, je préfère le terme platonicien de réminiscence, vague souvenir, de parasite aussi ». Et il dit que ces sujets-là ont des abréactions répétées et inefficaces qui ne guérissent jamais. S'ils ne guériront que si l'abréaction est accompagnée de toute la charge des affects restés coincés. Il faut vraiment que ce soit émotionnel. Et ça, les Anglais le reprendront en 1940 avec Sargon sur la Terre, des abréactions à l'éther. Et surtout, si on demande au sujet, non pas seulement de vivre son abréaction, mais d'établir des associations d'idées à son côté, à son sujet. C'est-à-dire, c'est ce qui est la méthode cathartique, d'après ce que Aristote avait écrit dans la poétique au sujet de la catharsis que ressent le spectateur d'Athènes à la fin d'une pièce d'Eschyle, de Sophocle ou de Ripide, lorsque le cœur tourne de gauche à droite, c'est la strophée par la strophe après, et que par la voix du poète, il énonce une vérité qui n'apporte pas du bonheur, mais qui apporte de l'éclaircissement, de la compréhension, là où jusqu'ici il y avait de l'absurde. Parmi les fondateurs, j'ai un homonyme qui est Jean Croc, qui est un Belge une fois, et qui il a sa rue à Bruxelles, il faut me faire photographier devant. Et il attend la mort de Charcot, il suit les cours de Charcot pour écrire un livre, Les névroses traumatiques. Et parmi les cas qu'il présente, il y a un militaire qu'il a vu chez Charcot, Espétrière, qui a été blessé autant qu'un coup de sabre et qui a été très émotionné sur le coup Et un an après, un très longtemps de latence, ce militaire subit une chute soudaine, suivie de léthargie, et dans sa chute, il improvise le geste qu'il n'avait pas eu de se protéger le visage. Et, parmi les fondateurs, la guerre japonaise est importante. D'une part, on voit beaucoup de confusion mentale, que Chaïkovitch appelle l'amantia stuporosa, mais d'autre part, le transsibérien n'étant pas terminé, Otokratov doit improviser la psychiatrie de l'avant. Le transsibérien se termine à Karbine, en Mandchourie, à 500 km du front. Et donc, il faut traiter les sujets sur place. Alors, il improvise un système de charrette hippomobile, avec des médecins, des infirmiers, des tentes. Il traite les gens sur place, il les renvoie au front. On se découvrira ça après 1917. Et Honigmann, qui est un médecin allemand de la Croix-Rouge volontaire chez Otokratov, crée le terme de névrose de guerre au sujet de cette guerre de russo japonaise. On passe maintenant à la période des successeurs, et il y a quatre périodes anticliniques. Il y a d'une part, au début, ce que Millien a décrit comme étant l'hypnose des batailles, des soldats qu'on a envoyés le 22 août, 23 août 14, à Virton et à Charleroi, à l'assaut des mitrailleuses allemandes, qui sont solidement tranchées, et qui sont morts par rangées entières, et qu'on renvoyait au combat, et le fort de la discipline, dit Brousseau, et qu'ils obéissaient quand même. Et il y a eu énormément de morts. Et après, comme les unités par renouvelées, ils erraient sur le terrain en état hypnotique, confusionnel, et Millien a appelé ça hypnose des batailles, par référence à Charcot, qui avait fait connaître l'hypnose par une communication à l'Académie des sciences en 1881. Mais dès que le front se stabilise, il n'y a plus d'attaque en pantalon rouge. On distribue des bleus de chauffe aux soldats, et ils sont abrutis d'un camp comme de l'autre, par des bombardements d'obus de gros calibre. Et c'est là qu'on décrit l'obusite, qui est un héritage du Grundschorkung, et également les Anglais appellent ça le shell shock. Alors le shell shock, vous allez en voir un cas assez intéressant. Voyez, qu'est-ce que j'ai fait de ma flèche là ? Voilà, clac, clic, clic. Voilà un retour du front, et vous allez voir le soldat anglais, celui-là tremble de la main droite, vous voyez. Et cet autre est une démarche spastique. Alors, ces shell-shocks, on a pensé, bien entendu, qu'ils étaient dus à la commotion, à un effet mécanique. Mais on s'est rendu compte que certains shell-shocks qui étaient tout près de l'explosion d'obus guérissait en 8 à 15 jours, parce que la même explosion, ceux qui étaient à 20 mètres de là, ne guérissait pas au bout de 2 mois, 3 mois, et présentait des états d'anxiété ou d'hystérie, et que donc on a remplacé la théorie, l'hypothèse mécanique ou commotionnelle par l'hypothèse émotionnelle. Alors, voilà par exemple un cas d'anxiété de guerre, c'est un soldat anglais aussi, c'est peut-être dans un hôpital anglais, qui entend un bruit d'obus, c'est un hôpital et il se réfugie sur son lit, et quand il sort du lit, il est complètement ahuri, abruti, il ne sait pas ce qui lui arrive. Un tas d'anxiété aiguë. On appelle la prosexie anxieuse. Et voilà un cas d'hystérie de guerre. Plusieurs cas d'hystérie de guerre. Ce sont des démarches qui ne correspondent à aucune lésion anatomique. C'est purement imaginaire. Il y a des marches du frotteur, du trotteur, du pas de loi. Celle-là, c'est pris en France, c'est dans le texte de Clovis Vincent. Il y a également les astasies abasies, le fait de ne pas pouvoir se tenir debout. Vous voyez ? On a décrit un catalogue énorme des syndromes d'hystérie de guerre, y compris les cantocormies, qui étaient le fait de ne pas pouvoir se déplier, on reste plié en avant, les catiémophrénioses, c'est-à-dire le fait d'avoir de gros ventes hystériques. Également, il y avait des amnésies de guerre, des amnésies massives quelquefois. Le cas du soldat Antel Mangin, qui a été retrouvé en 1918, errant à la guerre des terreaux, il avait perdu sa plaque, ses papiers et tout. Il ne savait plus de qui il était, ni qui était son unité, ni de quel village il était. Et on a envoyé, il en avait 200 dans ce cas-là, mais après il n'y en avait plus que 7 ou 8. Et on a envoyé sa photo dans toutes les mairies, des familles l'ont réclamé, il y a eu des procès. Et finalement, en 1942, il est mort, il était toujours à l'hôpital, il était arrêté depuis l'hôpital. Son cas d'amnésie massive, comme ça, a servi de modèle à Siegfried de Limousin, de Giraudoux, et puis le voyageur sans bagage. Alors, on s'est rendu compte que finalement, c'était des névroses de peur. Et qu'on va voir ici. Et c'est un hôpital anglais. Des sujets. Mince, qu'est-ce que j'ai fait ? Décidément, je ne suis pas doué. Ce que me dit mon petit-fils. Il me prend pour un crétin, il a bien raison. Voilà. Des tics répétés, mais qui perpétuent la peur, celui-là aussi. Et cet autre avec une protrusion de la langue. Du point de vue thérapeutique, on a tout essayé, le repos, les sédatifs, les excitants, la persuasion. Grasset, entre autres, c'est intéressant, de Montpellier, elle disait, il ne faut pas dire au sujet de cesser de trembler, il faut lui dire de cesser d'avoir peur. Voilà ainsi un tremblement des épaules, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait de cette clé-là ? Elle se balade partout, de cette flèche. Alors, il y a eu ces choses-là. Il y a eu également le torpillage faradique. Pourquoi j'ai perdu ma flèche ? Ah, ça y est, la voilà. Zut. Revenons en arrière. Oh là là, en arrière. Arrière, voilà. Oui. C'est une perpétuation de la peur, un tremblement des épaules. Je crois que c'est un film allemand, celui-là. Je passe rapidement. Alors, on a essayé le torpillage faradique, c'est très cruel. Ça consistait à déconditionner les sujets de leurs symptômes en leur faisant souffrir davantage, en leur envoyant de l'électricité faradique ou galvanique dans les jambes ou dans les bras, et en disant « tu vois bien que tu guéris ». Quand je suis arrivé au Val-de-Grâce assistant, mes anciens le pratiquaient encore. Hein, et c'est une espèce de déconditionnement aversif. Et alors, ça avait pour résultat quand même, le secrétaire d'État au service de santé, qui était Justin Godard, s'était inquiété du nombre d'hystériques de plus en plus grands qui croupissaient à l'arrière dans les hôpitaux de l'intérieur, et ça faisait perdre de l'effectif. Et en plus, c'était démoralisant pour ceux qui étaient courageux. Alors, il a réuni tous ces médecins de la zone des armées, de la zone des étapes et de la zone près de l'intérieur, et ils ont décidé de passer à autre chose. Mais le torpillage faradique, ça fait des allers-retours qui n'en finissaient plus entre les sujets, entre l'avant, où ils avaient peur des obus, et l'arrière, où ils craignaient absolument les spiquiatres. Mais il gagnait pendant ce temps-là le temps, ce que Léniel Lavacine appelait de longues odyssées sanitaires. Il était évacué d'un centre vers un centre de repos, d'un centre de triage, etc. Il gagnait des mois et des mois. D'ailleurs, vous avez dans. Il en parle, comment Céline, dans Voyage au bout de la nuit, de son dialogue avec le médecin, il trompe un peu le médecin. Alors, quand même, ce qui était intéressant, c'est qu'on a lancé la psychiatrie de l'avant. Autrement dit, on a redécouvert ces Salmons à qui on crédite des cinq principes de psychiatrie de l'avant qui étaient immédiateté, proximité, espérance de guérison et simplicité et centralité. Simplicité, des choses très superficielles, on ne cherche pas les conflits de l'enfance hein, sur la peur. Et la centralité, c'est tous les médecins formés pareillement. En fait, les Français l'avaient préconisé depuis longtemps. Il y a aussi les premiers élèves de Freud, comme Ferenc Abraham, qui ont lancé les théories psychanalytiques, dont Simmel, qui était un admirateur de Freud, et qui disait que les sujets qui étaient ensevelis par les choses en début, c'est toute leur personnalité qui était ensevelie, et même que ils avaient un changement d'âme. C'est assez intéressant. Ici, vous avez une photo d'un sujet qui traîne la jambe et qui est guéri après par faralisation. On passe à la Deuxième Guerre mondiale, où malheureusement, les leçons de la guerre précédente ont été oubliées. Alors, vous avez ici, je vous l'ai montré tout à l'heure, on va revenir très rapidement dessus, une névrose de guerre chez un sujet qui était enseveli. Il est resté 19 heures enseveli. Il y a de quoi être émotionné quand même. Et on a décrit à ce moment-là ce qu'ils ont appelé la réaction de combat aigu et surtout l'exhaustion, qui était l'épuisement, qui était un très mauvais... c'était recommandé par le commandement et par les psychiatres, mais ça gommait tout. On dit aussi là, tu es sûrement fatigué. Ici, vous avez une exhaustion de bataille des Ardennes, l'épuisement. Mais on pouvait confondre les véritables névroses de guerre avec les simples fatigues. Les hystéries ont été remplacées par des troubles psychosomatiques, du genre eczéma, urticaire, ulcère d'estomac. On a décrit la pathologie des prisonniers et des déportés. Entre autres, c'est Targovla qui est le premier à décrire la pathologie des déportés, et est-ce que par la suite, les Américains ont cru le découvrir en appelant ça Kazed syndrome, c'est-à-dire Ettinger. Mais c'était 10 ans après, c'est Targovla qui est le premier à décrire les déportés. Aux États-Unis, il y a eu le Morgan Board, qui était un bureau spécialement étudié pour étudier la pathologie des Américains prisonniers des Japonais dans les camps japonais. C'était pire que la déportation américaine. Puis ensuite, vous avez eu les victimes atomiques étudiées par Lifton dans les années 60, qui sont été intéressants parce que ces victimes atomiques, ils ont... Il y a que l'impression d'un malheur qui portait jusque sur leur faculté de procréation. Ils ne voulaient pas se marier de peur d'avoir des enfants dégénérés. Alors, où est-ce que j'en suis? Il faut que je mine. Alors, l'abréviation sur narcose, c'est là qu'il y a eu les fameuses narcoanalyses à grande échelle. Elle datait d'ailleurs de la Première Guerre mondiale, la narcoanalyse. Les médecins avaient découvert que des soldats qui étaient anesthésiés au masque d'Ambredon, soit par le chloroforme, soit le chlorodéthyle, avaient une abréviation terrible au réveil de leur anesthésie. Les chirurgiens s'étaient occupés d'eux et se sentaient mieux après ce plan psychique. Alors, ils ont eu l'idée d'anesthésier des soldats qui étaient seulement choqués. Et après, Sargan et Slater ont lancé le pain total sur les gens rapatriés de Dunkerque et sur le Blitz. Et Kaufmann, que vous voyez ici, que j'ai connu d'ailleurs en 67, pratiquait l'hypnose ou la narcoanalyse au pain total. Il y a également des thérapies de groupe et de la psychiatrie de l'avant. La circulaire Bradley est intéressante. Au début, les Anglais évacuaient leurs gens sur Malte ou sur Alger, au moment de la campagne de Libye. Et puis Bradley a réuni quand même ses psychiatres, ils ont convenu de les traiter sur place pendant 8 jours et d'évacuer que les cas qui n'arrivaient pas à traiter. C'est ça qui était intéressant. Il y a des programmes de traitement assez également complexes. Les guerres de l'après-guerre n'ont pas apporté grand-chose. J'ai vu beaucoup de gens en Indochine. Je faisais ma thèse de médecine au Val-de-Grâce à ce moment-là et on pratiquait les narco-analyses sous pain total pur. Parce qu'il n'y a pas pour la guerre d'Algérie, on a mêlé le pain total au maxiton pour obtenir des abréviations meilleures. Et ce que j'ai retenu de tout ça, c'est qu'à la différence des soldats de Deuxième Guerre mondiale ou Première Guerre mondiale, c'est plutôt des névroses par insécurité. Je mets ça la névrose de guérilla, les petits postes harcelés dans la nuit avec les léopards, leur vie, etc. Là, c'est la photo de mon ami Denis Poudkerfort qui était au Tonkin, je crois, et qui se désespère parce qu'il ne peut pas... Il est mort l'an dernier, il ne peut pas... je termine, les successeurs, par la politique du Vietnam. Alors, c'est intéressant parce que au Vietnam, de 64 à 73, ils ont envoyé 3 millions d'hommes. Et là, ils ont appliqué d'emblée la psychiatrie de l'avant, comme ils l'avaient fait pour la guerre de Corée, d'ailleurs. La guerre de Corée, tant que le front était stable, ça allait, mais quand il y avait des allers-retours entre les Chinois et les troupes de l'ONU, il fallait évacuer sur le Japon. Et alors là, j'ai eu mon ami Jones qui m'a dit nous, on est plus malin que vous, on traite sur place, on a réduit les évacuations de 9 dixièmes. Je veux bien. Je lui ai dit vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. You put the finger in the eye and tease the elbow. Effectivement, rentrer aux États-Unis après, ils avaient énormément de gens, 700 000 sur 3 millions, qui présentaient des post-Vietnam syndrome, des Kibar-Shatan, avec des réviviscences diurnes nocturnes, des alertes, et surtout l'impression d'être enfermé dans une membrane isolante qui les empêchait de communiquer avec autrui. Et c'est ce que Targovla avait décrit, d'ailleurs. Et Shatan appelait ça la transfiguration des personnalités. Alors, de là est venu l'état stress post-traumatique, pour ce que je veux dire, qui a introduit le mot stress. Et la classification officielle internationale a également adopté le mot stress, mais elle a gardé la réaction aiguë, facteur de stress pour les premiers jours. Elle a gardé aussi celle qui implique une modification des personnalités après une catastrophe. Voyons maintenant la deuxième partie, qui est le traumatisme. Ça vient du mot grec trauma et traumatismos, qui veut dire blessure et de blessé. Et par transposition de la chirurgie, on admet qu'il y a un choc psychique violent exercé par un agent psychique extérieur peut provoquer une blessure psychique. Le trauma, finalement, c'est une expérience de débordement et d'effraction des défenses. Et quelles sont ces défenses ? La défense qui consiste à anticiper l'agression, quand on la voit venir. La défense qui consiste à repousser les excitations psychiques dangereuses. Et surtout, la défense qui consiste à comprendre, à les intégrer, à les atténuer par intégration de sens. Sinon, ça reste intérieur comme un corps étranger, comme disait Janet. Donc le trauma est à la fois un phénomène économique, ce que tous les psychanalystes ont dit, mais ils ont oublié que c'est un phénomène d'absence de sens, de confrontation inopinée avec le réel brut de la mort. Alors, effectivement, Barrois, qui était là hier, a essayé, après, de faire une approche phénoménologique du trauma, épiphanie par apparition, apocalypse par révélation, prophétie par clamation, rupture des liens avec le monde, illusion de l'angoisse, d'initiation et présentation de la mort. Et moi, j'ai essayé de dire que, du point de vue phénoménologique, il y avait une altération profonde de la personnalité. Et surtout que la temporalité était filée sur l'instant traumatique. Alors ça, c'est très important, ça. Vous interrogez un sujet qui est traumatisé aujourd'hui, il ne voit pas son avenir, il ne vit pas son présent. Le présent n'est plus fluide. Il est obnubilé par ce qu'il vient d'avoir. Et quand on interroge sur son passé, au lieu de voir des passés possibles différents de l'unité du monde leibnizien, il ne voit que les passés à l'image de ce qui est traumatisé aujourd'hui. Ce qui fait que beaucoup de gens ont cru qu'il y avait des traumas antérieurs. Vous l'interrogez, il va choisir dans son passé que ce qui rappelle ce qu'il avait aujourd'hui. Et il y en a qui ont parlé d'après-coup, de traumas antérieurs. Moi, je dis non. Il faut prendre l'expérience de Sartre, c'est plutôt chaque passé a une vérité sursitaire. Et l'avenir confère à cette vérité un droit à arriver, à s'exprimer, ou au contraire, la repousse dans l'ombre comme un non-sens dérisoire. Un peu pour l'individu, la théorie de Max Weber pour les rapports entre protestantisme et capitalisme, ce qui est un phénomène purement spirituel à la mort de Calvin et de Luther, devient dans le discours de Franklin les germes de toute autre chose. Là, c'est pareil. C'est vraiment parce que disait Bergson aussi qu'il faut se méfier du vrai qui pense avoir été toujours vrai. C'est l'illusion introspective du vrai, c'est à peu près ça. Donc, cette notion de vérité sursitaire, et je suis en opposition avec des camarades psychanalystes qui croient toujours qu'on trouve dans le passé des premiers événements. Je dis non, c'est pas le conte de la Belle au bois dormant. C'est à chaque instant, on reconstruit son présent et son passé. Je passe rapidement sur le stress. Les Américains ont introduit le mot. C'est un mot qui a emprunté la métallurgie, qui est modification des métaux soumis à pression, étirement ou torsion, que Grinker et Spiegel ont introduit dans la clinique, dans la guerre en Tunisie et en Sicile, Ben Under Stress, donc c'est le premier que le mot apparaît, et Sellier, que j'ai connu, qui est mort en 82, il avait appelé Somme générale d'adaptation le fait que l'organisme réagit de manière standard à toute agression, quel que soit le mode de cette agression, brûlure, piqûre, etc. Et il dit, ben non, finalement, il faut appeler ça stress, si tu es d'accord, pour appeler ça stress. Le stress, réaction biologique, psychologique, immédiate, de l'organisme, d'alarme, mobilisation, de défense, face à une agression ou une menace, c'est un phénomène réflexe. Ce n'est pas de la volonté, mais on est conscient de ses effets psychiques et, entre autres, physiologiques et psychiques. Et sur le plan psychique, il focalise l'attention, il mobilise les capacités mentales, il incite à l'action. Mais s'il est trop intense, prolongé ou répété, il se met en stress dépassé sur quatre formes de sidération stuporeuse, d'agitation désordonnée, de fuite panique ou d'action automatique. Et c'est ça que, finalement, on va appeler le stress traumatique. Alors, du point de vue clinique, Les Américains ont complètement oublié la réaction immédiate, des premières heures, des premières 24 heures. Là, c'est très important. Dans le stress dépassé, quelle que soit la forme, le sujet, il est caractérisé par une désorientation dans le temps et dans l'espace, un arrêt de la pensée, le trou noir, l'impression de rêver, la dépersonnalisation, la sidération, un peu ce que disait Goethe à Valmy. Et Marmard appelait ça la dissociation péritraumatique, et je trouve que péritraumatique convient mieux, parce qu'on n'est pas autour du trauma, on est en plein dedans. Les anciens, pour les périodes post-immédiates, qui est du 2e au 30e jour, Charcot, Jeannet, appelaient ça période d'incubation, de méditation, de contemplation, de rumination, et Jeannet l'imputait à l'émotion retardante. Elle est conditionnée par deux sortes de facteurs, facteurs personnels, chacun sa vitesse pour improviser les défenses, là où c'est une situation inopérante, et facteurs conjoncturels, tant que le soldat est sur le front, il a autre chose à faire que de liquider son ancien trauma. La période post-immédiate se traduit soit par un tour anormal, on n'en parle pas du tout, l'esprit n'est plus monopolisé par l'événement, il surprend ses occupations, soit au contraire l'évolution vers une névrose traumatique. La déréalisation persiste, l'esprit monopolisé par l'événement, le sujet ne peut pas reprendre ses occupations, et on voit de nouveaux symptômes qui sont de réviviscence, des cauchemars, des sursauts, etc., les premières phobies spécifiques qui montrent qu'ils rentrent dans une névrose traumatique. Et après, on arrive dans la période différée chronique, névrose traumatique ou état de stress post-traumatique, où le syndrome est caractérisé par trois choses. D'abord, un syndrome de répétition. Le sujet revit en hallucination visuelle, auditive, olfactive, gustative, son expérience traumatique, ou en souvenir forcé, ou en vécu soudain comme si elle se reproduire, ou en agir soudain comme si elle se reproduisait, ils m'ont dit. Et surtout, le cauchemar de répétition qui est intensément vécu plutôt que contemplé et qui est quelquefois somnambulique. Et ce syndrome de répétition qui est obstiné s'y mêle, l'appelait le syndrome du gramophone Platz. Si vous prenez un phonographe dont le disque vinyle est rayé et la même phrase revient sans arrêt. Il a écrit ça en 1918, il fallait le faire quand même. Ensuite, il y a les symptômes dits associés par les Américains et qui pour nous font partie d'une névrose traumatique, c'est l'asthénie, l'anxiété, avec une mentalité d'anxieux et d'accès d'angoisse, les symptômes hystériques éventuels, crise de seconde conversion, phobiques, les phobies liées à l'événement qui sont tout à fait différentes des phobies psychanalytiques, c'est des phobies par conditionnement. Un sujet qui a été victime d'un attentat dans le métro, il a peur de prendre le métro. Et s'il le reprend, il se fait accompagner par quelqu'un ou il fractionne son trajet à trois stations ou quatre stations à la fois. Il y a des somatisations, des troubles psychosomatiques et des troubles des conduites, dont justement le tabac, l'alcool et la drogue et le syndrome de Rambo dont on a parlé hier, l'agressivité. Le troisième volet du tableau clinique, c'est l'altération des personnalités. Le sujet se sent différent de ce qu'il était avant. Il dit qu'il a changé de personnalité, ses familles ont changé. Je dis qu'il a un nouveau rapport au monde et à soi-même, une nouvelle manière de percevoir, de juger, de penser, de ressentir, d'aimer et de vouloir. Simmel fait ce changement d'âme. Cardinaire part d'une nouvelle personnalité établie sur l'ancienne. Cardinaire, c'est celui qui est intéressant. On en parlera tout à l'heure rapidement. Et ça donne une transfiguration de personnalité. Voyons maintenant la dernière partie, rapidement, qui est le devenir de ces blessés psychiques. Alors d'abord, une névrose de guerre déclarée. Alors, Brillet-Bib, c'est la seule enquête qu'on a eue pour la Deuxième Guerre mondiale, 1700 cas, sur 50, 5 ans après, 90, c'est encore des symptômes. Bramsen, aux Pays-Bas, enquête sur 10 000 personnes, j'ai pas mis le nom, mais 10 000 personnes des Pays-Bas qui étaient nées entre 1922 et 1929, et 50 ans après, 39% ont des symptômes. On parle de guérison quelques années, avec ou sans traitement, de résilience. Je me méfie un peu de ce mot à la mode. Il y a des cas plus durables et qui sont relancés avec la retraite. J'ai remarqué que les anciens que je vois, au moment où ils prennent leur retraite, ils sont privés de la dérivation que leur offrait le travail, la vie familiale, les enfants sont grands, etc. Et tous les cauchemars remontent à ce moment-là. On les croyait guéris ou assagis et ils ont des relances de la névrose de guerre. Ce qui est plus intéressant, ce sont les cas inapparents. Ce sont des gens qui n'ont pas voulu consulter. Pourquoi ? Parce que sur le front, les infirmeries étaient encombrées de blessés et d'agonisants. Alors, eux, ils avaient eu peur, ils ne disaient rien. Et après, ils n'ont pas voulu consulter non plus. Ils ont pensé que le syndrome passait avec le temps, et le temps ne fait rien à l'affaire. Et alors, ils ont voulu, certains ont voulu changer de pays, changer de métier. Et Jeannet, reprenant une épître de Boileau, dit « Si le patient part en voyage pour fuir sur la jouissance, le chagrin monte en croupe et galope avec lui », ce qui est très joli comme image. Hein. En fait, c'est toute la personnalité qui est perturbée et ça en fait des destins compromis. Alors, je termine par un poème de Siegfried Sassoon qui était en 1917 sur le front de la Somme et qui a écrit ce fameux poème anglais, donc dans quelques phrases seulement, « Qu'est-ce que ça peut faire, c'est plus tes jambes, c'est plus tes yeux, et cauchemar qui remonte ?» Alors, on va le voir maintenant. Les Anglais, la télévision anglaise en avait refait un... Ce sont les poètes anglais de la Somme. Wilfrid Owen, lui, s'est fait tuer 8 jours avant l'armistice. Il a eu moins de chance. Et Rupert Brooke, lui, qui était au Dardanelle, est mort à l'hôpital. C'est lui, ce fameux poème, If I should die, si je meurs, ce territoire où je suis sera à jamais un territoire anglais. Tout à fait la... Comment l'idéologie de l'époque. Donc voilà, j'arrête là-dessus. J'ai un peu dépassé mon temps de 10 minutes, mais j'avais calculé ça. On va essayer de revenir. Hop. Dans la discussion, il y a plein de détails que je vous ai cachés, on pourrait les ressortir.
Oui, bah, je pense que je vais donner tout de suite. Je pense que tout le monde est en état de choc, là. Donc, léger, là. Tout de suite la parole à ceux qui la souhaitent pour des questions, des remarques. Moi aussi, je suis en état de choc, donc je vous transfère la responsabilité de l'animation, de la discussion.
Non, pas vraiment en état de choc, même si... En... Ah ben non, je vous en prie.
C'était simplement pour amorcer la pompe. Et ouais. C'est fait, allez-y.
Juste, j'ai une petite question, mais vraiment, si... C'est parce que vous n'avez pas utilisé le mot, et c'est dans votre ouvrage ça apparaît, notamment Freud parle des simulateurs. Il y a la vraie, c'est-à-dire qu'on est dans une logique de simulation, on le voit bien sur le suicide, ce qui s'appelait la blessure pour quitter le front, la blessure pour retourner à l'arrière. Donc il y a, au départ, voilà, ça, l'automutilation, et il y a une obsession de la simulation, ce qui interdit en fait la pensée autour de ça. On arrive, c'est vers la fin de la Première Guerre mondiale qu'on arrive à voir, alors qu'il y a des études, vous l'avez très bien dit sur la guerre de sécession, mais chez nous, on fait comme si ça n'existe pas, on a l'impression de tout redécouvrir.
Et effectivement. L'arrêt avait déjà eu à sauver des soldats qui se faisaient arracher les dents pour ne pas déchirer les cartouches ou enlever la main droite. Napoléon voulait faire fusiller. Et l'arrêt les a sauvés en disant qu'ils étaient au premier rang et que ceux du deuxième rang, le fusil portait trop haut et ça avait arraché le doigt. Mais beaucoup de psychiatres de la Première Guerre mondiale ont été très durs avec les soldats et ont tout de suite pensé à la simulation, à la sursimulation ou à la persévération. Les soldats qui prétendaient être aux symptômes quand ils ne l'avaient plus. Et en fait... il y avait aussi tout le phénomène de la sinistrose, de ceux qui voulaient une rente. Alors, Justin Godard a fait en sorte que les hystéries et les névroses de guerre ne puissent pas avoir droit à une rente, comme les blessés. Le droit à la rente pour les névroses de guerre a été accordé avec parcimonie en 1919-1929, et en fait, c'est en 1992 qu'il y a eu réellement un décret qui autorise de donner des pensions militaires aux névroses de guerre. Sur les modes des États-Unis, qui, eux, avaient organisé le réseau des Vet Centers, où ils ont traité 800 000 hommes en 10 ans, entre 89 et dans des réseaux loin des hôpitaux de vétérans, loin des hôpitaux militaires, dans les centres commerciaux près des universités. Ils ont traité les gens, et pas tellement par psychiatrie, mais psychologue, assistance sociale, etc., chose dans ce genre-là. Alors donc la simulation, on y a pensé, et beaucoup de gens comme Clovis Vincent, Gustave Roussy, même Lépine, qui était pourtant humain, et même Freud, Freud a eu à intervenir dans le procès que l'Autriche a intenté à Wagner-Jauregg en 1919, parce que Wagner-Jauregg, dans sa clinique de Vienne, avait toléré qu'un de ses médecins pratique les torpillages faradiques à des intensités fortes, et un des malades s'est suicidé, et un autre avait porté plainte. Et Freud n'a pas critiqué la méthode, parce que lui-même l'avait utilisée en 1889 contre des hystériques récalcitrantes qu'il mettait hors de lui, Emmy von N et Elisabeth von R. Il dit « faralisation de la jambe sensible, et il faut aller jusqu'à la douleur ». Il a dit que non, c'était une méthode périmée et qu'il fallait mieux penser à la psychanalyse. Il a proposé d'ailleurs au congrès de 1918 à Budapest de créer des centres de traitement de psychanalyse. Et le gouvernement américain, allemand et autrichien étaient d'accord pour créer ces centres, mais l'action d'armistice ne l'a pas permis. Alors, finalement, il y a une évolution vers l'humanisation entre le début 14 avec la dureté vis-à-vis des psychiques, la suspicion de simulation, le torpillage faradique, et puis après, des gens qui étaient inspirés par la psychanalyse, comme Ménard, comme Eder, Adrien, etc., les premières narcoanalyses, etc., une humiliation progressive qui s'est faite. Mais c'était très long à venir. Hein. Un type qui a fait beaucoup, Ferenczi et Abraham, les élèves de Freud ont fait beaucoup, Ferenczi était à l'hôpital de Maria Valeria à Budapest, et Abraham à Weinstein, et Simmel était à Poznan. Ils ont fait beaucoup pour ça. Abraham a fait une sorte de psychanalyse simplifiée. C'est essayer de comprendre les soldats. Une humiliation progressive, quand même.
Oui.
Moi, je voudrais défendre un peu le psychiatre du début du XXe siècle, parce que la faradisation, bon, tout le monde dit c'est horrible, mais c'est moins pire, bien moins pire que ce qui se faisait au XIXe siècle. Parce que quand on a... Moi, je vois, j'ai trouvé un début d'emploi d'électricité dans un hôpital, alors on doit trouver ça avant, dans un hôpital militaire de thermalisme, donc en 1864, ce qui m'a été donné comme date. Mais avant... C'est toujours le fond du problème, c'est qu'on pense que le soldat qui ne veut pas aller combattre et qui fait pour eux du cinéma, eh bien, c'est un simulateur. Vous l'avez dit, mais c'est essentiel, je vous l'ai dit hier, l'obsession des armées, c'est toujours le simulateur. Donc, ils ont une grande, je vous l'ai dit, il y a des dictionnaires entiers de simulations diverses et variées. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un autre monde où on avait la chasse aux simulateurs, c'était les fous. Et dans tous les asiles, par définition, les gens qui arrivaient, on considérait qu'ils étaient simulateurs, parce qu'ils voulaient ne pas travailler, être au service de l'État, enfin, être payés par l'État, etc. Donc, il y avait une chose qu'on faisait jusqu'au XIXe siècle, on mettait un métal qui a été chauffé au rouge, et on le mettait là, dans le cou, et ceux qui supportaient ça, d'abord ceux qui voyaient ça, ils étaient horrifiés à ce moment-là, on disait ils ont simulé, chauffe dehors, et puis ceux qui résistaient, là ça commençait à se dire il y a quelque chose qui ne va pas bien. Seulement le problème, c'est qu'il y en a qui sont, ils n'ont tellement pas envie d'aller combattre, ou qui veulent vraiment, ils sont vraiment fous, qui n'éprouvent même pas la douleur, ou en tout cas ils la supportent. Donc c'était très très pervers, mais la faradisation c'était déjà mieux, parce que le au fer rouge garantit que c'est quelque chose d'horrifiant, surtout que c'était une époque où on pouvait pas soigner ça.
De toute façon, la faradisation c'était pour les hystériques qui sont pas des simulateurs, c'est une espèce de conversion inconsciente.
Oui, hein. Mais pour eux,
leur peur, ils
n'avaient
pas l'exprimer. Ils l'expriment d'un symptôme qui n'est pas n'importe quel symptôme. Ça peut être le geste qu'ils n'ont pas pu faire. Ça peut être le geste qu'ils faisaient. Ça peut être parce que leur copain était blessé aux jambes, mais eux, par sympathie, eux ont les jambes paralysées. Ça peut être parce que quand ils étaient petits, leur maman les portait dans leur lit, qu'ils étaient blessés à la jambe, et là, ils veulent revenir pareil. Il y a plein de choses comme ça. Et on le décrit très bien. Et même les symptômes de reviviscence sont liés à ça. Cardinaire, qui était médecin d'un hôpital des vétérans en 1924 à New York, cite le cas d'un garçon boucher solide, costaud, qui portait des bœufs, des veaux, etc., et qui tombe dans les pommes en voyant des clientes. Sous hypnose, il découvre que ce sujet-là a été gazé. En 1918, son masque était mal adapté, et les clientes trop parfumées qui rentrent dans la boutique, ça lui rappelle les gaz. C'est amusant, ça. C'est... Hein ? Je ne sais pas avec quoi c'est parfumé. Là, je termine. Mais j'ai vu un cas moi, de somnambulisme. Je l'ai vu il y a 2 ans. C'est un légionnaire qui était. Il a fait le Tonkin, il s'est battu la baïonnette et tout. Et bien, bien fou, la veille de l'assaut, il a été soufflé par une explosion d'obus. Ça fait que les Vietnamiens qu'elle ramassait. Et après, pendant 30 nuits de suite, parce qu'il marchait toute la nuit vers les camps de prisonniers, et dans la journée, il devait se cacher dans la forêt, à peine nourri. Et ceux qui tombaient en route, ils laissaient pour mort. Et lui, au bout de 20 jours, ou 25 jours, il laissait pour mort. Et des paysannes viettes l'ont recueilli, l'ont soigné, et lui ont dit, bah, sauve-toi. Et lui, il n'a pas voulu se sauver. Il s'est repointé au camp de prisonniers pour retrouver les copains. C'est comme gentil, ça, les viettes n'en venaient pas. Et comme il n'était pas en trop mauvaise santé, lui et quelques autres, moins escandés que les autres, tous les matins, ils allaient enterrer les 10, 15 ou 20 cadavres qui étaient morts dans la nuit. Et comme ils étaient fatigués, ils enterraient pas profond. Et quand ils revenaient le lendemain, ils voyaient que les rats avaient déterré les cadavres de leurs copains et commençaient à bouffer les orteils et tout. Et alors, il s'est passé... Ensuite, il a refait plusieurs campagnes en Algérie, deux fois deux ans. Il a dû aller au Tchad, plein de choses. Et à la fin, il prend sa retraite. Et j'ai vu qu'il prenait sa retraite parce que... sa fille était inquiète, c'est un paysan. Il racontait à sa chèvre bien, bien fou. Alors la fille dit, mais papa est fou, etc. Et puis en plus de ça, la nuit, il se levait, il descendait en pyjama, sa femme le secouait, il ne répondait pas. Il prenait une pioche et une bêche et il faisait des trous. Et il rentrait couvert de gadou et sa femme le secouait, il ne répondait pas. C'est au petit matin, il était encore fait trou, il dit, c'est pas vrai, ben regarde. Je l'ai publié, c'est un cas intéressant de somnambulisme fossoyeur, ce qui est assez rare. Hein. Mais enfin, je l'ai publié à cause de ça. Mais donc, quelquefois, c'est tenace. Comme quand Pierre Janet dit « Partir en voyage, ça ne sert à rien », le chagrin monte en coupe et galope avec lui, c'est ça. Oui ? Pardon.
À propos de votre exemple... Oui, oui, ça y est.
Ah, si.
Si, si. C'est sur votre exemple de Goethe à Valmy.
Oui.
Je n'ai pas compris pourquoi vous parliez de troubles associatifs à propos du texte que vous avez cité.
De dissociation.
Je n'ai pas compris quand même pourquoi vous parliez de dissociation.
Ça commence par l'histoire de dissociation parce qu'il ressent à la fois le plaisir de tous ces bruits qui rappellent la toupie de l'enfant. Et en même temps, ça apporte la mort. Alors, c'est deux choses contradictoires. Ce que j'appelle la dissociation.
Parce que moi, en poésie, j'appelle ça la synesthésie.
Ah non, la synesthésie, c'est autre chose. C'est,
Deux sensations différentes.
Deux sens.
Et après, la synesthésie, c'est les sensations.
Deux perceptions différentes. C'est pour ça que ça me... En plus de...
Bataille de définition.
Ce qu'on appelle les textes en prose et en prose... poétique quand même, parce que ça relève pas du genre ce mémoriel.
Ce qu'on appelle
synesthésie, alors que vous avez synesthésie, je crois.
Ah oui, c'est ça, j'ai compris synesthésie.
Non, synesthésie, c'est autre chose. C'est le sentiment qu'on a du lieu, c'est autre chose.
Oui.
Mais synesthésie, c'est le fait de télescoper deux perceptions, deux sensations, et le texte, qui est quand même un texte d'auteur, j'ai du mal avec la dissociation.
Ça,
là,
c'est la première
j'ai pas compris.
De son paragraphe.
Oui.
À l'occasion de cette expérience bizarre,
oui.
où il ressent des choses contradictoires pour le même phénomène,
oui.
à ce moment-là, il dit, mais je suis plongé, l'atmosphère chaude, et je suis imprégné par cette chaleur, et je fusionne avec le monde extérieur. Donc ça conduit à une expérience de dépersonnalisation.
Oui, non, là, je suis...
Bon, interprétation littéraire. Interprétation.
Ah oui, non, alors là, c'est le conflit des interprétations.
S'il y a des conflits d'interprétation et de définition, je vais repasser la parole, puisque je voulais terminer.
Les poètes sont des malades.
Une chose très importante, c'est que ne croyez pas que ce soit réglé, la question. La question n'est pas réglée. On a beaucoup bataillé dans les armées pour faire reconnaître ce qu'on a appelé danois, c'est joli d'ailleurs, la blessure invisible. C'était le syndrome des gueules cassées. Quand vous avez quelqu'un qui a une gueule cassée, à qui manque un bras, à qui manque une jambe, vous savez ce qu'il a. Il est blessé, ça se voit. La blessure invisible ne se voit pas. Donc, il faut la réhabiliter. Et c'est très récent. Le ministre est venu clôturer un colloque que nous avions organisé récemment sur les blessures invisibles, parce qu'on en a parlé, parce que Le Monde a fait une page entière, parce que France Info a fait un reportage. Et donc, il est venu inaugurer la fin. Ce qui est incroyable, c'est que, malgré tout, le président de la République, là, cette année, le 13 juillet dernier, est allé visiter l'hôpital de Percy. Il est allé visiter trois services, le service des grands blessés, le service de rééducation, le service psychiatrique. Dans le compte rendu du service de santé des armées, il n'a visité que deux services. Parce que, inconsciemment, le service de psychiatrie, c'est pas un service... C'est étonnant, c'est-à-dire que cette sorte de refus de l'institution, même si elle traite les cas, l'institution globalement, comme une sorte de tabou, comme le suicide, on en parlera tout à l'heure, refuse d'accepter qu'il y a un choc et des conséquences sur les militaires qu'elle emploie.
Les patients eux-mêmes le refusent. Oui. Parce qu'actuellement, les jeunes, on envoie des psychiatres à l'avant, on leur dit si ça ne va pas, vous voyez ça. On veut faire un débriefing, à la rigueur. On n'a pas le temps d'en parler, mais les patients disent ça va se poser tout seul. Et deuxièmement, les patients disent si je consulte, j'ai l'air d'une mauviette. Et deuxièmement, peut-être que le médecin va me foutre inapte. Bon. Avoir l'air de mauviette et demi-inapte. Donc ça, mais ceci étant dit, ces blessures invisibles, on les voit. Ce sont des sujets qui sont préoccupés, perplexes, qui ne bougent pas, qui ne parlent pas beaucoup avec les autres, ou qui inversement sont trop joyeux d'être quittes pour la peur, mais c'est une euphorie de mauvais aloi. Ils sont exubérants, ils gênent les autres, etc. Et très souvent, je dis, ce sont des destins compromis, parce qu'une fois chez eux, ils sont tristes, ils ne s'épanouissent pas, ils ne cherchent pas à avoir de l'avancement. J'étais psychiatre à Bordeaux en 1962 à 65, et le chirurgien, mon camarade chirurgien, m'envoyait d'office en consultation des vieux de 14-18, qui avaient entre 70 et 80 ans, parce que ils étaient en service de chirurgie pour se faire enlever les éclats qui migrent. Les éclats, ça migre depuis la profondeur des muscles à la surface. Et la nuit, ils avaient des cauchemars. Ils poussaient des cris. Alors les jeunes d'Algérie appellent l'infirmière, qui appelle le chirurgien, et on me l'envoyait d'office. Le vieux était furieux. Je ne veux pas consulter chez les fous. C'est normal, j'ai des cauchemars, puisque j'ai fait Verdun. Donc, ils avaient une pathologie, et ils ne voulaient pas reconnaître que c'était pathologique. Ils trouvaient ça normal. Et leur femme que je faisais venir me disait, oui, quand il est rentré, il n'était plus comme avant, et il était triste, il ne voit plus ses amis, il n'a pas envie de développer sa ferme, son travail, ce qu'on appelle des destins compromis. Vous voyez, chez les enfants, on le voit aussi, je n'ai pas eu le temps de parler des enfants, mais vous savez qu'on a longtemps cru que l'enfant ne pouvait pas être traumatisé, parce qu'il n'a pas un imaginaire de la mort aussi mûr que celui de l'adulte, et parce que sa personnalité en devenir est capable d'arranger tout ça. Alors je dis, c'est justement parce qu'il y a un imaginaire pire que celui de l'adulte, qui peut davantage choquer par la représentation de la mort, hein, et deuxièmement, parce que sa personnalité en devenir, il peut justement être sensible à beaucoup de choses. Anna Freud avait dit pour les enfants du Blitz qui étaient envoyés à la campagne là, qu'ils avaient observé, ils traduisaient la terreur de leurs parents. Je dis non, c'est un peu vrai, mais l'enfant a deux traumas, le sien propre, hein, et celui de ses parents, qui reçoit un miroir, puis il constate l'impuissance et la terreur de ses parents, alors que les parents devraient le protéger. Alors il y a eu ça a beaucoup joué quand même pour les... J'ai vu une petite fille moi, qui se fait couper le bras à l'âge de 11 ans en 44, un bombardement, et après tout, sa vie a été ratée. Elle se racontait étant petite qu'elle était une princesse qui avait ses deux bras, et après ses camarades n'osaient pas la bousculer, et tout ça, et est devenue vraiment renfermée sur elle-même, ça ne bougeait pas. J'en ai beaucoup d'autres comme ça, de ces enfants.
C'est passionnant, mais je crois qu'il va falloir qu'on on arrête là pour passer la parole à Madame Taylor, qui va donc nous parler des sociétés guerrières. Vous voulez venir vous avez besoin
de projeter des choses? J'ai pas de PowerPoint, donc...
Vous pouvez venir là, quand même, si vous préférez.
Oui. Si vous voulez. Non, si vous voulez. Je peux rester là, ça n'a aucun problème.
Non, non, je dégage.
Ça va être.
Je dégage tout de suite.
Mais ce c'est pas.
Je ne sais pas comment enlever ma clé.
Bon, vous pouvez la retirer directement, c'est pas très grave si vous ne l'enlevez pas.
Vous voyez ?
Oui, oui. Non, ce n'est pas très, très grave.
Je le mets en double, c'est vrai. Allez, zoom.
Hop. Vous me dites.
Vous êtes là, madame ?
Oui. Alors, en réalité, je ne vais pas parler des sociétés guerrières en général. D'abord parce que c'est en réalité, c'est une fausse catégorie anthropologique, puisque les raisons de faire la guerre, les formes de la guerre, sont, je crois, beaucoup trop variées pour être utilement regroupées dans une seule catégorie, sans parler évidemment des risques d'ethnocentrisme dans les jugements catégoriels que nous appliquons à des sociétés autres que les nôtres. Ce que je vais faire, c'est plutôt essayer de vous donner une idée de ce qu'implique vivre dans une société pour laquelle la présence permanente d'ennemis qu'il faut confronter est une donnée de l'existence, et ceci à partir de matériaux ethnographiques qui me sont familières, celles relatives aux sociétés indigènes de l'Amazonie et plus particulièrement aux cultures dites Jivaro, qui sont, comme vous le savez, notoires pour leur bellicisme exacerbé et surtout, évidemment, pour leur pratique de réduction de diatrophies. Et du coup, je vais toucher au passage l'ensemble des thèmes autour desquels ces journées d'études s'organisent. Alors, pour faire la guerre, il faut des ennemis. C'est une évidence. Il se trouve que, en réalité, il faut partir des ennemis, dans le cas amazonien, pour expliquer la guerre. Puisque dans de nombreuses sociétés amazoniennes, on est dans des univers de vie ou d'existence où l'existence d'ennemis et donc de rapports d'hostilité intentionnelle est une donnée inscrite dans l'ordre du monde, bref, ce que nous appellerions, nous, un fait de nature. Il est entendu que l'univers comporte des agents intentionnels prédisposés à la malveillance à l'égard de n'importe quel ego de référence et même acharnés par principe à sa perte. À preuve, le fait qu'on meure, qu'on tombe malade, qu'on souffre d'infortunes diverses. Ça a été beaucoup rapporté dans l'ethnographie. La notion de mort et de maladie comme une fatalité biologique est de fait tout à fait étrangère à la pensée des Indiens d'Amazonie. La mort n'est pas une nécessité naturelle pour eux, c'est plutôt un accident inévitable de la vie relationnelle, de la vie en société. On meurt en fait à cause des ennemis, des autres, et on fait la guerre parce qu'ils sont là et qu'il faut sinon solder, au moins assumer l'inépuisable dette de vengeance que crée leur malveillance de principe. Alors, cet horizon d'hostilité principielle qui cerne les mondes de vie indiens peut être plus ou moins lointain ou rapproché. Il peut être extérieur à l'unité ou à l'ensemble ethnique ou tribal, ou alors inclus dans lui, comme c'est le cas dans beaucoup de sociétés à vendetta. Dans tous les cas, il est là, et c'est ce qui explique que l'espace social indigènes prennent le plus souvent une forme concentrique, organisée autour d'un noyau formé par un sujet plus ou moins élargi et collectif, englobant ceux qui sont de même sorte, de même espèce que le je anaphorique. Et au-delà se trouve la sphère des gens avec qui on entretient des rapports d'échange, notamment matrimoniaux, mais aussi de biens, de paroles, de tout ce que vous voulez, c'est le cercle des affins. Et au-delà encore, la sphère des autres, avec qui on ne troque pas de biens tangibles, mais avec lesquels on entretient une relation très particulière d'agression réciproque, actualisée ou virtuelle. Et c'est ce cercle-là qu'on peut globalement définir comme celle des ennemis. Alors, qui et que sont ces ennemis? Ils prennent évidemment des formes variées et ils ont également des modes d'action variés. Il peut par exemple s'agir des animaux de chasse qui se vengent de la prédation qu'exercent sur eux les humains en leur envoyant des maladies et la mort. Et dans ce cas de figure, vous l'imaginez bien, la chasse est conçue comme une forme, par exemple, de guerre réciproque. Il peut s'agir des morts, qui sont en réalité les grands autres, par excellence, d'une certaine façon, dans le monde amazonien, des morts qui tuent les vivants pour devenir immortels, ou encore cherchent constamment à soustraire des vivants, et tout particulièrement des enfants, pour augmenter, en les tuant en fait, pour augmenter la densité démographique de leur propre société. Il peut s'agir d'esprits de différentes sortes, sachant qu'en Amazonie, les esprits sont par principe hostiles aux humains, mais éventuellement susceptibles d'être apprivoisés. Et il peut enfin s'agir d'autres humains, des tribus voisines ou plus lointaines. Et le plus souvent, l'horizon d'hostilité regroupe en réalité les trois catégories à la fois: la focalisation sur telle ou telle classe d'agents malveillants étant relative et contextuelle. Ce qui reste constant, c'est la relation d'inimitié. Vivre dans une société à ennemis, c'est donc vivre dans un monde saturé de relations dangereuses et être éduqué à une attention permanente aux manifestations éventuelles d'hostilité et à la présence visible ou invisible d'ennemis. Et c'est aussi apprendre à interagir avec ces ennemis, à en distinguer les différentes classes et surtout à les confronter en position agentive, bref, d'agir sur les relations d'hostilité au lieu de les subir. Alors, c'est difficile pour nous d'appréhender ou même d'imaginer une configuration de ce type-là parce que, évidemment, nous sommes portés à croire que l'état de guerre et plus généralement l'état d'inimitié, d'hostilité, est, de notre point de vue, une pathologie de la relation sociale. C'est un état anormal des relations. Or, ce n'est pas du tout le cas en Amazonie, c'est plutôt l'état par défaut, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir, du tissu relationnel. Et en fait, la relation qu'il faut construire, qu'il faut travailler et qui est intentionnellement produite, c'est le travail même de la parenté, c'est la relation d'amitas, c'est la relation de confiance, d'amitié, de pacifique. Et par ailleurs, nous sommes également porté à attribuer l'hostilité envers autrui et la disposition à l'attaquer à un ou des facteurs inhérents à une supposée nature humaine, alors soit sur un mode rousseauiste, la société rend méchant des êtres qui seraient naturellement bons, soit sur un mode lockien, sans état, l'homme est un loup pour l'homme. Hobbesien, pardon. Rien de tel chez les Amazoniens. Là, s'il y a des ennemis dans le monde, c'est parce que les rapports entre tous les êtres, tous les existants, tous les animés du monde sont pris dans un schéma de prédation généralisée qui est en fait une espèce d'amplification métaphysique de la notion de chaîne trophique et qui est fondée en fait sur le constat empirique évident que tout existant animé doit, pour subsister et se développer, se nourrir d'autre chose que lui-même. Du coup, la prédation en cascade offre une sorte de matrice, constitue de fait la matrice de toutes les relations possibles entre sujets, si bien qu'on est toujours vis-à-vis d'autrui dans l'une de trois positions possibles. Soit on est en position de proie, c'est-à-dire égaux et mangé, entre guillemets, par alter, Soit on est en position de prédateur, polarité inverse, soit on est en position de congénère, c'est-à-dire d'identité avec autrui, et cette identité, elle est essentiellement définie par un critère de commensalité. Celui avec qui je mange et comme, et s'il mange comme moi, est congénère. Et c'est ce qui explique au passage l'importance énorme qu'accordent les Indiens d'Amazonie à la question du régime alimentaire. Et c'est de fait le régime alimentaire qui est la manière princeps pour eux de catégoriser les êtres, mais aussi de les modeler, de les fabriquer, bref, d'en faire des congénères, des êtres qui partagent la même sorte de corporéité et qui constituent de ce fait une espèce commune. Alors, on peut à présent, à la lumière de ces considérations, mieux cerner la nature de ces agents hostiles qui cernent le monde des congénères. L'ennemi, c'est la forme que prend autrui lorsque sa perception est commandée par le schéma de la prédation. C'est l'autre vu soit comme proie, soit comme prédateur, soit les deux à la fois, puisque la relation est par définition reversible. Il n'y a pas de prédateur absolu dans le monde sublunaire, il n'y a que les morts ancestralisés ou divinisés qui sont des, à la limite et encore, des prédateurs absolus. Autrement dit, des prédateurs qui n'ont pas de prédateur. Alors, cette relation de prédation réciproque peut tantôt se scinder en types d'agression qualitativement différenciés. Par exemple, les humains chassent, le gibier envoie des maladies. Tantôt rester uniforme et s'exprimer dans un rapport d'homicide réciproque, direct ou indirect via l'assaut ou l'agression chamanique. Ou enfin, se manifester par une combinaison de ces trois modes de violence, ce qui est de fait le cas le plus fréquent. Alors, un autre point tout à fait fondamental des cosmologies amazoniennes qu'il faut souligner, c'est que la relation d'inimitié est non seulement donnée, inscrite dans la texture du monde, elle est activement cultivée et recherchée par les Indiens. Et on touche là à un trait que les ethnologues de cette ère ont pris l'habitude d'appeler l'altérité constituante, une expression qui renvoie à une espèce de tension qui porte ces sociétés amazoniennes à chercher à prélever chez l'autrui ennemi des choses vitales et à les incorporer à son propre collectif. Des trophées corporels divers, des noms propres, des captifs à consommer ou à intégrer, des enfants, des femmes à épouser, etc. Bref, des items dont la très haute valeur tient justement à leur qualité d'extériorité, à leur qualité exogène. En résumé, l'altérité constituante, c'est l'installation au cœur de la reproduction sociale d'un procès de capitalisation de relations nécessaires, pardon, non pas simplement pour être, les femmes et les petits-enfants en particulier n'ont pas besoin de ce surplus pour être, mais en tout cas pour devenir pleinement le type de sujet posé comme le modèle de l'individualité, le modèle du sujet individuel ou collectif. En d'autres termes, l'affrontement violent et l'accession au statut de guerrier fournissent les éléments nécessaires pour accéder à une position d'hyper-sujet, d'adulte pleinement accompli, capable de fonder et défendre un groupe de congénères et de confronter autrui, l'ennemi, en position haute. Et ceci veut dire que les guerres amazoniennes, hors contexte colonial, ne sont en aucun cas des guerres de conquête territoriale ou d'accumulation de biens tangibles. Ce sont avant tout des pratiques à dimension rituelle visant principalement à une transformation rituelle du self, de la subjectivité. Maintenant, si on associe au schéma de la prédation cette tension vers la captation violente des moyens de forger une hypersujéité, si j'ose dire, comme l'ethnographie nous invite souvent à le faire, on se trouve confronté à un paradoxe assez difficile à cerner. Et ce paradoxe se résume à ceci. On fait la guerre pour devenir un homme accompli. A priori, on impute donc à l'ennemi cette subjectivité qu'on va récupérer à son profit. En même temps, l'homicide guerrier amazonien est conçu par les Indiens comme un acte de prédation qui transforme autrui en viande, c'est-à-dire en entité dépourvue de subjectivité, d'intériorité. Et une abondance de données ethnographiques atteste ce procès d'objectivation réalisé par l'homicide. Par exemple, l'assimilation réitérée du meurtre à un acte de dévoration, dans, par exemple, les énoncés associés au rituel de Caire, et l'identification corrélative du tueur à un animal prédateur, premier chef le jaguar. Une identification qui est fortement soulignée par les peintures corporelles arborées lors des actions guerrières. Le régime alimentaire, ou plus généralement corporel, qui est imposé aux meurtriers et qui vise à retransformer le corps jaguarisé du guerrier en corps de congénère. Chez les Jivaros, par exemple, le meurtrier est devenu, du fait de son acte, dévorateur de chair humaine, bien que les Jivaros ne sont pas et n'ont jamais été cannibales au sens strict du terme, n'empêche que le terme utilisé pour désigner l'homicide est toujours celui de consommation alimentaire. On est mangé par ces PCs et on les mange. Donc, chez les Jivaros, dévorateur de chair humaine, il doit s'astreindre pendant des semaines à un régime végétarien draconien, voire s'enduire la bouche de terre et d'excréments de poule pour modifier rapidement son appétit et faire disparaître sa prédilection pour la chair des humains. Alors, la réduction d'autrui au statut de proie puis de chose effectuée par l'homicide se mesure aussi aux recommandations prodiguées aux jeunes gens, parfois saisis de confusion ou de compassion pour leurs victimes lors de leurs premières expéditions guerrières. Et les Jivaros encore, par exemple, reconnaissent que tuer une autre personne est difficile et traumatisant. Et les autobiographies guerrières, qui sont un genre discursif tout à fait traditionnel chez ces Indiens, comportent presque toujours des épisodes d'une ironie macabre qui décrivent rétrospectivement l'état de panique et de désarroi du narrateur face à une victime qui le regarde, qui lui parle, a fortiori s'il s'agit d'une connaissance qu'on a traitée jadis comme un parent. Aussi, les aînés disent aux adolescents de, par exemple, ne pas regarder le visage de leur victime, d'essayer de la faire tomber face contre terre, de ne pas l'écouter, de ne pas l'entendre. Et il faut devenir littéralement non-penseur, il y a un terme très spécifique qui désigne ça, sachant que le paradigme de la pensée, comme la pensée, le travail mental, pour eux, c'est penser à ses proches, qui est à la fois une modalité de l'imagination visuelle et aussi, évidemment, une modalité affective. Donc, devenir non-penseur, c'est mettre, d'une certaine façon, l'autre à l'abri de ce type d'acte mental. Et il faut surtout, disent toujours les aînés, penser à sa propre famille, comme ça, et ça c'est une citation, comme ça on ne ressent pas de pitié et on tue facilement. Et quand on a appris, le terme apprendre est tout à fait appliqué à ce type de situation, disent froidement les informateurs, commettre un homicide n'est pas plus difficile, mais pas plus facile que de tuer du gibier. Si l'on se rapporte à l'équation indigène entre subjectivité rehaussée et intentionnalité prédatrice intense, le tueur est au moment de l'homicide dans un état de sujéité ou de subjectivation maximale, alors que le tueur, plus exactement la victime, est réduite à l'état de chose opaque, dépourvue de sa capacité à faire sujet. Toutefois, cette subjectivité déniée par l'homicide revient en force et de multiples façons. D'abord, la consommation réelle ou figurée de cette « viande » entre guillemets qui est devenue l'ennemi entraîne toutes sortes d'effets étranges. Par exemple, l'envahissement postulé du corps du tueur par la chair de sa victime. Chez les Araouété, un groupe toupi très bien décrit ethnographiquement, ou encore chez les Wari, qui étaient jusqu'à la fin des années 60 encore cannibales à la fois exo et endo, mais aussi chez les Yanomami, par exemple, un groupe également très connu pour son bellicisme, le tueur vomit pour un temps le sang ou la chair décomposée de l'ennemi. Chez les Jivaro, l'homicide, le tueur mime corporellement le cadavre ennemi dont il vient à partager l'odeur et la souillure. Et dans d'autres cas, ou encore après cette période de décomposition interne du tueur, la victime est incorporée non plus sur le registre de la digestion, mais sur celui de la grossesse. L'homicide, le meurtrier, devient enceint de sa victime. Il la porte en lui à la manière d'un embryon et s'entretient avec ce fœtus. Et cette grossesse est de surcroît hautement productive, car la fécondité du tueur est le plus souvent généralisée et profite à l'ensemble de son groupe. Cette digestion paradoxale de la victime, on ne sait pas très bien qui métabolise qui dans cette affaire-là, renvoie en fait à une métamorphose plus fondamentale. Elle traduit le fait que le mort prend la place du tueur dans un mouvement de bascule inverse de celui qui caractérise l'homicide prédateur. C'est le meurtrier qui devient l'objet et sa victime qui devient sujet. Et ça, c'est un changement de perspective qui est abondamment illustré par des énoncés ou des comportements rituels post-homicide et qui constitue en réalité la visée ultime de la guerre amazonienne. C'est aussi cette visée qui justifie la production d'artefacts rituels tels que les têtes réduites, précisément, les trophées corporels divers, tous ces trucs qu'on fait avec les dents, les ossements, les cheveux, etc., des ennemis, ou encore certains types de masques. Tous ces objets, tous ces artefacts sont destinés à figurer la position de l'ennemi, la présence de l'ennemi, c'est une sorte de présentification de l'ennemi, pendant les rituels post-homicide, Et ces rituels, à vrai dire, occupent beaucoup plus les Indiens et pendant bien plus longtemps que l'affrontement guerrier proprement dit. Et ce qui est en jeu dans toutes ces figures, c'est l'intériorisation d'un point de vue d'autrui sur soi-même et sur son collectif d'appartenance. Alors, ça c'est une question très complexe et je n'ai pas le temps ici de détailler, comme il le faudrait, l'explication des raisons sous-jacentes à cette quête d'incorporation d'éléments figurant l'identité et au-delà le point de vue de l'ennemi. Je me bornerai à dire qu'elle fait intervenir au moins deux facteurs. D'abord, l'idée très répandue dans les sociétés amazoniennes que leur collectif est toujours menacé de déficit de personnes. Plus exactement, de déficit de potentialité d'incarnation, sachant que les enveloppes corporelles existent en nombre limité. Et d'où l'idée que pour qu'un enfant naisse, il faut que quelqu'un meure de manière à libérer une potentialité d'identité qui autrement ne serait pas là, tout simplement. Alors ça renvoie à un autre facteur qui est on est dans un monde où il n'y a pas de création. Il n'y a pas de machinerie susceptible de produire du vivant. On part d'un stock fini. Et ceci vaut pour toutes les espèces et chaque tribu constituant une espèce particulière. Donc, incorporer la victime ennemie, soit pour l'adopter post-mortem et le remettre à mort au plan symbolique en tant que congénère, ce qui se passe souvent, et capter ainsi la potentialité d'incarnation qu'il représente en libérant son habit corporel, soit encore pour engendrer rituellement une nouvelle personne. Et ça explique pourquoi, disons, c'est une des manières qu'ont ces sociétés de conjurer cette hantise de déficit de potentialité d'existence. Et sur un plan plus abstrait, le détour par le point de vue de l'ennemi sur son propre collectif est en réalité ce qui permet d'asseoir son identité. Puisque dans une ontologie comme celle dont nous traitons ici, on ne peut poser une identité au sens logique du terme qu'en empruntant la perspective d'alter. L'altérité constituante, c'est donc en fait l'expression de l'épistémologie particulière inscrite dans ou associée à cette configuration cosmologique animiste. Bref, et pour conclure, en mangeant l'autre, le meurtrier et son collectif d'affiliation intériorisent la perspective de l'ennemi et du même coup reproduisent, en enclenchant la mécanique de la vengeance automatique, reproduisent du même coup la relation abstraite à l'horizon d'inimitié, relation qui s'actualisera de nouveau en fonction des circonstances par l'affrontement avec tel ou tel groupe réel. La guerre en Amazonie, et pas partout en plus, mais enfin dans ces sociétés dont je traite, est donc un mode de subjectivation qui reproduit automatiquement les termes de la relation qui la fonde. Tuer dans ce contexte, c'est non seulement se reproduire soi-même, c'est reproduire aussi ses antagonistes. Et ceci explique que les sociétés guerrières, j'aime pas beaucoup ce terme, enfin employons-le par commodité, les sociétés guerrières amazoniennes, même si elles vivent dans un climat de guerre permanente et que le destin assigné aux hommes soit de devenir des hyper-sujets, donc des guerriers, n'ont en réalité pas besoin de se livrer constamment à l'affrontement homicide. Le rendement rituel d'un meurtre est tel qu'il suffit en réalité de peu pour assurer la survie constante de ses ennemis si vitaux pour sa propre personne. Voilà.
D'accord, merci beaucoup, c'est passionnant. J'ai peut-être éventuellement quelques questions en marque, mais je peux passer immédiatement la parole à ceux qui la voudraient.
Moi, je veux bien poser deux questions à Madame Taylor. Je ne sais pas si elle a les réponses. L'une, et là je ne connais ces sociétés que par l'intermédiaire d'un auteur que vous connaissez peut-être, qui est Philippe Descola, où la distinction est effective entre vendetta ou vendetta, dont il traite à peu près exclusivement, mais dans certains passages, il dit « mais il y a également au-delà des guerres ». Et donc, il doit y avoir un critère, j'imagine, un cercle concentrique particulièrement lointain. Enfin bon, là, je suppose que vous avez la réponse. Alors, la deuxième est beaucoup plus délicate. Et très général. Bon, ces conduites font parfaitement sens dans le cadre de référence que vous avez décrit. La question se pose, d'où vient ce cadre de référence, cette manière de voir les choses et la place de l'humain, si vous voulez, dans l'univers. Ça ne peut pas être une cause générale, sinon ce serait un phénomène humain en général. Donc il ne reste que deux possibilités. Ou bien dans ces sociétés, il y a un X qui développait ou conduit à mettre en place un cadre de référence tel qu'à l'intérieur d'eux, il y a tout ce que vous nous avez dit. Autrement dit, il y a un facteur dans la société qui explique. Ou bien, autre possibilité, mais de nature historienne, si vous voulez, un jour quelqu'un, quelque part, lancer un thème qui, de génération en génération, a été développé, puis ça a fini par faire sens, on s'y est habitué. Alors, bien entendu, vous n'avez pas de documents, mais c'est parce que la question est tout à fait essentielle, si on veut du moins trouver une explication, enfin, ultime.
Je réponds rapidement à votre première question, parce qu'effectivement, elle est plus simple. La guerre... Les Jivaro, effectivement, font aussi bien la guerre de vendetta contre des gens qui sont, en fait, considérés comme des parents. Et c'est même parce qu'ils sont devenus des mauvais parents qu'on leur fait... qu'on les attaque. Donc, ils ont cessé d'être des parents, ce qui est la première condition pour commencer à devenir un ennemi. Et maintenant, ça, ce sont des guerres qui sont, comment dirais-je, auxquelles on peut mettre un terme, qui sont, et on peut les retransformer en parents, éventuellement. Cet horizon d'ennemi permanent, il est très exactement calibré chez les Jivaro sur les autres Jivaro. Dieu sait si les Jivaro ont fait la guerre, enfin, ont eu des affrontements armés avec les Blancs, ça, c'est pas du tout, ça ne compte pas, d'une certaine façon. Ça ne fait pas des Blancs des ennemis. Dans la mesure où le rapport avec eux n'est pas rentable rituellement. L'ennemi, le vrai ennemi, c'est un Jivaro qu'on va définir comme parlant une autre langue, mais qu'on comprend néanmoins, parce qu'en fait les variations dialectales sont faibles, mais on estime que c'est une autre langue, qui sont des non-parents. Et ça, c'est une condition sine qua non pour, par exemple, prendre une tête, mais qui ne soit pas non plus extra-jivaro. Et en fait, le nom qui désigne, le mot qui sert à désigner ennemi, shibuya, c'est juste une modulation du terme shuar qui est l'autodénomination standard. Donc, une espèce de morphing du soi vers l'ennemi qui se traduit, y compris au niveau linguistique, disons. Et effectivement, il y a des formes de guerre quelque peu distinctes, pas dans le mode. C'est des guerres ce qu'on pourrait presque appeler des guerres de razzia, c'est des expéditions où on essaie de surprendre une maisonnée adverse. Et autrefois à la lance, maintenant avec des fusils, on tire dans le tas et voilà. Et on repart le plus vite possible. dans le cas de guerre intertribale, effectivement, le principal intérêt, l'ennemi est généralement anonyme. Simplement, il est ennemi, ça suffit pour le tuer. On prend la tête et c'est essentiellement les rituels post-homicide avec la tête qui sont l'intérêt de la chose. Le cas de la vendetta, il peut y avoir destruction du corps, mais il n'y a jamais prise de tête et il n'y a pas de rendement rituel impliqué, sauf à titre individuel pour le tueur. Mais ce n'est pas collectivisé, d'une certaine façon. Alors, l'autre question. D'une certaine façon, je pourrais vous retourner votre question. Pourquoi est-ce que nous estimons que l'amitas et la relation donnée et pourquoi avons-nous le type de structuration du monde que nous avons? C'est d'une certaine façon une question à laquelle il n'y a pas de... si vous avez... Il y a des tas de... probablement pas infinis, c'est précisément ce sur quoi travaille Philippe Descola, d'essayer de montrer qu'il y a un nombre relativement restreint, des grammaires relativement restreintes pour composer des mondes. Si vous composez votre monde en mode, ce qu'il appelle en mode animiste, qui est dans un sens assez différent de celui qu'utilisait l'ethnologie du 19e et du début du 20e, après, vous avez toutes sortes de choix possibles. Il se trouve qu'en Amazonie, beaucoup de sociétés, il y a eu une espèce d'accroche avec le schéma de la prédation qui porte ces sociétés, effectivement, à faire de la guerre, de cette relation d'hostilité immanente, un aspect structurant de leur système social.
Je suis bien entendu d'accord avec vous. Je dirais que c'est le postulat de base de l'anthropologie au sens de science du règne humain, toutes les sociétés, toutes les civilisations sont de ce point de vue dans la même position. Mais l'anthropologue, son objectif ultime, qu'on n'atteindra peut-être jamais, c'est de trouver une explication. Pourquoi là, c'est ainsi, puis pas la même chose
ailleurs. Alors, ce qu'il peut faire, c'est expliquer pourquoi, par exemple, dans ces sociétés, il n'y a pratiquement pas de sacrifice. Notion de sacrifice n'a pas de sens dans un univers comme ça. Alors qu'il en a beaucoup ailleurs, etc. Mais il ne peut pas expliquer pourquoi est-ce que les Jivaros sont Jivaros. Il peut en rendre compte et explorer toutes les implications de ce qu'est être Jivaro, mais pas pourquoi ils sont Jivaros.
Vous avez repris, chaque fois que vous utilisez le mot guerre, hein, vous mettez des guillemets ou vous hésitez.
Oui,
je suis assez d'accord sur le fait que le terme est ambigu et me paraît finalement pas correspondre, en tout cas dans l'acception que nous, on lui donne d'ordinaire, au phénomène que vous décrivez.
Bien sûr que non. Donc, sauf que, alors là, dès qu'on rentre dans la question, évidemment, c'est complètement artificiel d'imaginer que tout ça se passe hors histoire et hors contexte colonial. On entre là dans un problème très compliqué parce que effectivement, ces Indiens, les Tupinambas, qui étaient les premiers Indiens rencontrés en Amérique du Sud par les Européens, ont évidemment été tout de suite considérés comme des gens adonnés de manière pathologique à la guerre précisément et décrites comme des sociétés où la guerre est une passion dominante, etc., etc. Et donc du coup, il y a à la fois un rapport très étroit entre un rapport de malentendu constant, si j'ose dire, dans les accusations réciproques, de même pour le cannibalisme, parce que, par exemple, toujours pour en revenir au fameux Tupinambas, les Tupinambas niaient absolument être cannibales au sens de « nous ne mangeons pas de la chair humaine ». Parce qu'effectivement, quand ils dévorent l'ennemi, d'abord, l'ennemi n'est plus humain, et deuxièmement, eux sont des jaguars. C'est ce que disait le grand chef, c'est ce que rapporte Staden, le grand chef Kunyambebe. je mange parce que je suis un jaguar. Donc, on ne mange pas du tout sans semblable. Et eux, en revanche, se disaient horrifiés par la théophagie des chrétiens. Enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais...
Et peut-être un dernier petit point, si personne ne veut intervenir, puis je vous propose de faire une toute petite pause après, puis de reprendre, parce qu'on est très en retard. Ou alors, on ne fait pas de pause, c'est comme... Vous voulez me faire une petite pause ?